إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله وأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنواصل بعون الله تبارك وتعالى قراءتنا لشرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله جل جلاله وما زلنا في حديث من باب حسن الملكة وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. طيب Donc on poursuit, Inch'Allah Ta'ala, l'explication de l'Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Et on n'avait pas encore terminé l'explication du hadith numéro 158, dans lequel il dit l'imam al-Bukhari, Rahimahullahu Ta'ala, Muhammad ibn Sallam nous a rapporté et a dit, Muhammad ibn Fudayl nous a informé selon Mughira, selon Moussa, selon Ali radiallahu anhu, qui a dit la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam était accrochez-vous à la prière, accrochez-vous à la prière, craignez Allah dans ce que vous, ou craignez Allah vis-à-vis des gens que vous possédez, ou des gens qui sont sous ou à votre disposition. Tayyib. فقال الشيخ رسلان حفظه الله تعالى ومن الوصايا الخاصة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه وصية خاصة ولكنها عامة فهي وصية لكل إنسان لكل مصل أن يقول في آخر صلاته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يطلب من الله عز وجل الإعانة على ثلاثة أعمال من الأعمال المهمة وهي ذكر بمعناه العام واجب ومستحب والشكر لله عز وجل الذي أمر به أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وحسن العبادة يشمل كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل من الواجبات والمفروضات والمستحبات كلها يطلب من الله تبارك وتعالى الإعانة فإذا لم يكن للعبد عون من الله ما استقام له حال وإذا طلب من الله الإعانة أعانه الله وأقدره لأنه هو الفعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. Donc, pour terminer l'explication de ce hadith, il dit le Cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, parmi les recommandations du prophète, alayhi salatu wa salam, particulières et spécifiques, ce qu'il a recommandé à Mu'adh, radiyallahu anhu, lorsqu'il lui a dit, ô Mu'adh, certes, je t'aime. Donc, ne délaisse jamais, à la fin de chaque prière, de dire, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à parfaire ton adoration. Donc cette recommandation, elle est spécifique à Mouaz, dans le sens où il s'est adressé à Mouaz, certes, mais son jugement, bien sûr, il est général, car il va englober toute personne, hein, qui va faire une prière obligatoire. Il lui sera recommandé à ce prieur de dire à la fin de sa prière, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à parfaire ton adoration. Taïeb, donc la personne qui vient de prier une prière obligatoire, elle demande à Allah, tabarak wa ta'ala, ces trois choses-là qui font partie des choses primordiales. Premièrement, la première chose, c'est quoi? C'est l'évocation d'Allah. Donc la mention d'Allah, le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah dans son sens général. Que la mention elle soit obligatoire, que le rappel soit recommandé. Puis on a la deuxième chose qui est le remerciement. Le fait de remercier Allah Jalla wa Ala. Et le remerciement qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il a ordonné. Comme il l'a dit dans la sourate Luqman, verset 14. De le sens rapproché, remercie-moi ainsi que tes parents vers moi est le retour. Remercie-moi ainsi que tes parents vers moi sera le retour. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est la perfection ou l'excellence dans l'adoration qui englobe toute adoration par laquelle le serviteur se rapprochera de Allah, tabarak wa ta'ala, parmi les adorations obligatoires, recommandées. Eh bien, elles sont toutes concernées. Donc, la personne demande à Allah tabarak wa ta'ala cette aide, ce soutien. Vous voyez pourquoi? Parce que si le serviteur n'a pas cette aide et cet appui venant d'Allah tabarak wa ta'ala, il ne pourra pas adorer Allah jalla wa ala comme il le faut. Alors que s'il demande à Allah jalla wa ala l'aide, Allah il va l'aider et Allah il va lui donner la capacité de l'adorer de la façon demandée. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui fait ce qu'il veut et celui qui est capable de toute chose. Faqala al-Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, an al-shukr, qal al-shukru من العبادات العظيمة الذي معناه الاعتراف بالله بالنعمة والاستعانة بالنعمة على مراد الله وقضاء الحاجات المشروعة فإذا كان العبد من الشاكرين لنعمة الله زاده الله من فضله فإذا أعطاك الله شيئا من العلم فشكرته على ذلك زادك الله من العلم أعطاك من المال أعطاك من الولد أعطاك من الصحة أي نعمة من النعم التي ينعم الله بها عليك الدينية أو الدنيوية وشكرته زادك من فضله لأنه وعد ذلك كما في قوله الحق لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أي كفر النعمة. طيب يجي الشيخ زيد المدخلي حفظه الله ورحمه par rapport au remerciement. Donc on a vu l'une des trois choses que l'on demande à Allah tabarak wa ta'ala après chaque prière obligatoire, c'est on demande à Allah qu'il nous aide à le remercier. Donc le remerciement fait partie des adorations les plus prestigieuses. Et c'est quoi le fait de remercier Allah? Shukru, yani shukru lillah tabarak wa ta'ala, c'est le fait de reconnaître vis-à-vis d'Allah les bienfaits qu'il nous a donnés et qu'il nous donne. Premièrement, le fait de reconnaître, la reconnaissance envers Allah, que ses bienfaits, ils viennent de lui. Et également le fait de céder des bienfaits d'Allah pour satisfaire Allah. Cela fait partie également de la reconnaissance et du remerciement vis-à-vis d'Allah. Le fait que tu t'aides des choses qu'Allah t'a données pour satisfaire Allah, tabarak wa ta'ala. Et également le fait de t'aider des choses qu'Allah t'a données pour satisfaire tes besoins légiférés, pour satisfaire tes besoins, na'am, et les choses dont tu as besoin de manière légiférée. Donc, si le serviteur fait partie de ceux qui remercient Allah Jalla wa Ala par rapport aux bienfaits d'Allah, eh bien Allah, il va augmenter encore plus ses bienfaits sur lui. Si Allah t'a donné, par exemple, une science, une connaissance, et que toi, tu remercies Allah pour cette connaissance qu'Allah t'a donnée, eh bien, sache qu'Allah Jalla wa Ala, il va te donner encore plus de science. Il va augmenter ta science. Allah t'a donné de l'argent, une richesse. Toi, tu remercies Allah pour cela. Allah, il va te augmenter encore plus ta richesse. Allah t'a donné des enfants. Tu remercies Allah, il va te donner encore des enfants. Allah t'a donné une bonne santé. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que Allah, Jalla wa Ala, quand il te donne un de ses bienfaits, que ce soit un bienfait qui est terrestre ou un bienfait qui est religieux, eh bien, et que toi tu le remercies pour cela, eh bien, il va t'augmenter encore plus de sa grâce, car c'est une chose qu'il a promis de faire. Comme il a dit dans le sens rapproché du verset, il a dit: et si vous remerciez, je vous rajouterai. Mais si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment sera terrible. C'est-à-dire que si vous faites ce qu'on appelle kufrun ni'ma, c'est le fait de ne pas remercier Allah tabarak wa ta'ala. Ne pas mentionner les bienfaits qu'Allah jalla wa ala te donne. Ou de carrément rejeter les bienfaits d'Allah et de les affilier à quelqu'un d'autre qu'Allah jalla wa ala. Ça fait partie de kufrun ni'ma. Donc celui qui remercie Allah, Allah il lui rajoute. Mais celui qui est ingrat, qui tombe dans kufr ni'ma, dans l'ingratitude, eh bien son châtiment sera terrible. Thumma qala an husn al-ibada. Qala husn al-ibada talab 'am min al-'abd an yasta'ina billahi 'ala husn al-ibada. Wa kullu 'ibadatin mafruḍah aw wajibah aw mustahabbah فهي حسنة داخلة تحت هذا الدعاء العام وحسن عبادتك فهذه الوصية وإن كانت خاصة لمعاذ إلا أنها عامة لكل مسلم ومسلمة فلا تنسى وسواء قلتها قبل أن تسلم من صلاتك أو بعدها سلمت من صلاتك الأمر فيها واسع وقوله قبل السلام أفضل لأنك متلبس بالعبادة والدعاء عندما يكون صاحبه متلبسا بالعبادة هو أولى وأفضل إن شاء الله. Puis il dit à propos de la troisième chose que tu demandes, c'est-à-dire tu demandes l'aide à Allah que pour l'adorer de la meilleure des façons. حسن العبادة. Donc là c'est une demande qui est générale. C'est-à-dire que tu demandes l'aide à Allah tabarak wa ta'ala de parfaire son adoration, quelle que soit l'adoration, qu'elle soit obligatoire ou recommandée. Taïeb, donc toute adoration est une bonne action qui est concernée par cette invocation lorsque tu dis wa husna ibadatik, et aide-moi à parfaire ton adoration. Donc cette recommandation du prophète alayhi salam, même si elle est particulière à Mu'adh dans le sens où C'est vrai, il a transmis à Mouaz et il lui a dit, ne délaisse à la fin de chaque prière, hein, sans que tu ne dises cette invocation-là. Eh bien, comme on a dit, elle est quand même globale et générale, elle concerne tous les musulmans et musulmanes. Donc n'oublie pas cela. Et maintenant, à quel moment on l'a dit? Est-ce qu'on l'a dit avant de faire le salam ou est-ce qu'on l'a dit après avoir fait le salam de la prière? Il dit les cheikhs que tu le dises avant de faire le salam ou après que tu aies fait le salam, il dit l'amr wasi, dans le sens où yani, la chose elle est vaste, inshallah. Tu peux le faire avant comme tu peux le faire après. D'accord? Mais il dit le mieux, c'est que tu le fasses avant le salam. Pourquoi? Parce qu'avant que tu aies fait le salam, tu es encore dans l'adoration. Tu es encore dans l'adoration de la prière. Tayyib. Et il dit donc, l'invocation, lorsque la personne, elle est encore yani, à l'intérieur de l'adoration, eh bien cela est prioritaire et cela est meilleur. Tayyib. Et nous savons en plus que, après avoir fait le tashahhud, il est bien de demander, par exemple, protection contre le feu de l'enfer, contre le djal, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort. Et puis, par la suite, de faire les invocations que tu désires avant de faire le salam. D'accord? Donc, c'est un moment qui est propice à cela. Et c'est pour ça qu'il dit le shirk, il est mieux, dans ce cas-là, de faire cette invocation-là avant de faire le salam. Sachant qu'après le salam, c'est plus pour les évocations, pour le tesbih, pour le tahlil, pour le takbir, pour le tahlil, hein, pour par exemple, la récitation de l'ayat al-Kursi, soit l'ikhlas, al-falaq, al-nas, ça c'est après le salam. Mais avant le salam, c'est plus pour les du'as. D'accord? C'est plus pour les du'as, les invocations, les demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est bon? Toye. فالنواصل فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سوء الملكة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة من الدواب قد عرفنا خياركم من شراركم أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. طيب فهذا الحديث قال صحيح أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية والبيحقي في الشعاب وصح بيان الخيار من الشرار مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وليس عنده ولا يعتق محرر ولكن الذي معنا ها هنا موقوف على أبي الدرداء. Donc il dit le chapitre suivant qui est le chapitre 83, il dit chapitre les mauvais traitements envers les esclaves ou envers tous ceux qui sont sous la disposition de la personne ou à la disposition de la personne. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Salih nous a rapporté et a dit, Muawiyah ibn Salih m'a rapporté, selon Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufayr, selon son père, selon Abi Darda, qui a dit aux gens, donc Abu Darda qui est un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit aux gens, nous vous connaissons plus que les vétérinaires par rapport aux bêtes et aux animaux qu'ils soignent. D'accord? Donc, bien sûr, les vétérinaires sont connus pour connaître de manière très approfondie les animaux, les bêtes, les troupeaux, etc. parce que c'est leur domaine, afin qu'ils puissent les soigner de la meilleure façon. Il dit à Abu Darda, nous, on vous connaît plus, c'est-à-dire les gens, on vous connaît plus que les vétérinaires vis-à-vis de leurs bêtes. Il a dit, nous connaissons les meilleurs d'entre vous des pires d'entre vous. C'est-à-dire qu'on sait qui sont les meilleurs d'entre vous et on sait qui sont les pires d'entre vous. Il dit, quant aux meilleurs d'entre vous, ce sont ceux dont on espère le bien et dont on est à l'abri de leur mal. Ça, c'est les meilleurs d'entre vous. Ceux dont on espère du bien et ceux dont on est à l'abri de leur mal. Quant aux pires d'entre vous, ce sont ceux dont on n'espère pas de bien et dont on n'est pas à l'abri de leur mal. Et il finit en disant « Wala yu'taqu muharraru » et dont l'esclave qui a été affranchi n'a pas été libéré. Ou celui qui a été libéré n'a pas été affranchi. On va expliquer, inshallah ta'ala. Donc ce hadith, il est authentique. Il a également été rapporté par Abu Nu'aym, Al-Bayhaqi, Tayyib, et une version qui remonte même jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abi Huraira, chez Tirmidhi, même si on n'a pas le rajout à la fin qui est « Et celui qui a été libéré n'a pas été affranchi. » D'accord ? Mais, donc, ici, la partie « Les meilleurs d'entre vous sont ceux dont on espère du bien et dont on a l'abri du mal. Et les pires d'entre vous sont ceux dont on n'espère pas du bien et dont on n'est pas à l'abri de leur mal. » Ce passage-là, yani, il a été rapporté par et dit par le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela a été rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Mais la version qu'il a rapportée, c'est le Bukhari, c'est une version qui est mawqufa, c'est-à-dire que c'est une parole de Abu Darda rahimahullah radiyallahu anhu. Ma'an al-kalimat babun sou'ul malika, sou'ul milka, afan. Ou sou'ul malaka, on peut dire les deux, soit le malaka, soit le milka. Yani, al-isa'ata ila al-mamalik. Dans le chapitre, on a dit, ça concerne le mauvais traitement envers les esclaves. Al-bayatira, jam'u, al-bitar, wa huwa al-lavi yu'aliju al-mawashiya wa al-dawab. Donc al-bayatira, donc j'ai traduit déjà par vétérinaire, c'est le pluriel de al-bitar ou al-baytar, qui est celui qui soigne les animaux et les bêtes. Wa la yu'taqu muharraru, ay annahum idha i'taqu 'abdan istakhdamuhu, fa in arada firaqahum idda'u riqqah, fa yakunu muharraran ghayra mu'taq. Yuqal harrar 'abd, ay sara hurra. Et puis donc à la fin il dit, et celui dont l'esclave libéré n'a pas été affranchi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, les pires d'entre vous, hein, quand ils affranchissent un esclave, eh bien, ils continuent à le traiter comme un esclave. Quand ils affranchissent un esclave, ils continuent à le traiter comme un esclave. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à lui donner des ordres, à lui interdire des choses, à lui parler comme un esclave, à le traiter comme un esclave, etc. etc. Et quand l'esclave il va vouloir se séparer d'eux, eh bien, ils peuvent même prétendre que ce sont encore leurs esclaves. Alors qu'ils ont été affranchis déjà. D'accord ? Parce que c'est les pires d'entre vous. Taïeb ? Donc c'est comme si la personne avait été libérée, mais pas encore affranchie. Wallah al-musta'an. D'accord ? Puis il dit le cheikh, le verbe harra, on dit harra al-abdu, ça veut dire que l'esclave a été libéré. Fahuna, suratun sadiqa, li khiyar al-nas wa shirarihim, falladhi yarju al-nas minhu al-ihsana ilayhim. ويأمنون إساءته وإيذاءه فهو خير الناس والذي لا يرجى منه الخير ولا يؤمن شره فهو شر الناس عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. Il dit donc cette image, c'est une image qui est véridique. Nous décrivons les meilleurs des hommes ou des gens et les pires des gens. Taïeb, donc celui dont les gens espèrent le bien, la bienfaisance pour eux. Et celui dont les gens sont à l'abri de sa malfaisance, de son mal, de ses torts, etc., eh bien, c'est le meilleur des gens, le meilleur des hommes. Alors que celui dont on n'espère pas de bien, et celui dont on n'est pas à l'abri de son mal, c'est le pire d'entre eux, qu'Allah nous en préserve. فقال الشيخ اعرض نفسك على هذا الميزان وضع نفسك حيث هي. أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرر أو نعم محرر. Donc il dit le cheikh, par conséquent, Il faut que tu te fasses ton propre jugement. Regarde où ta personne se situe par rapport à cette description des meilleurs et des pires. Et pose-la sur cette balance par rapport à cette phrase, donc ce hadith qui est les meilleurs d'entre vous sont ceux dont on espère du bien et dont on est à l'abri de leur mal. Donc pose-toi la question, est-ce que je fais partie de ce genre? Est-ce que je fais partie de ceux dont on espère du bien et dont on est à l'abri de son mal? Et aussi, regarde, si tu ne fais pas partie des pires, à propos desquels il a dit, ceux dont on n'espère pas son bien et dont on n'est pas à l'abri de son mal et dont l'esclave libéré n'est pas affranchi. Vous voyez? Donc il dit, les chers, il faut que tu pèses ton âme ou ta personne sur cette balance. ذكر في خصال المنافقين قال إذا خاصم فجر مفهوم هذا أن المؤمن الذي لا تشوبه شائبة من النفاق إذا خاصم لا يفجر فعنده شرف في الخصومة فكذا المؤمن يؤمن شره لأن المرأة يمكن أن يوادد وأن يصاحب وأن يخالل وينثر صاحبه بين يدي مخبوء ومقلون صدره ويبثه أسراره ثم يقع بينهما ما وقع أو ما يقع بين الناس مما لا بد أن يقع فإذا خاصمه وقد يكون باغيا عليه فإنه حينئذ يذيع أخباره حتى تطير كل مطار ولا يرقب في إلا ولا ذمة إلى غير ذلك مما يؤذي به الناس بعضهم بعضا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué les traits de caractère des hypocrites, il a dit parmi donc leurs traits de caractère, lorsqu'il se dispute ou lorsqu'il a un conflit avec quelqu'un, il fait preuve de fujour. C'est-à-dire, comme l'ont expliqué les ulama, il va recourir au mensonge. Lorsqu'il a un conflit, lorsqu'il a un contentieux avec quelqu'un, il va recourir au mensonge et il va s'éloigner de la réalité, de la vérité. Donc on comprend de ce hadith que le croyant, lui, qui n'a pas été sali par ce défaut et ce vice des hypocrites, lorsqu'il a un conflit, lorsqu'il a une mésentente avec quelqu'un, un contentieux, il ne ment pas. Il ne ment pas, il dit la vérité, même si c'est contre lui, même si c'est contre, même si c'est aux dépens de ses proches, de ses parents, de ses enfants, de ses frères et sœurs. Il dit la vérité. Il ne s'éloigne pas de la vérité. Ça y est, là, c'est le croyant qui n'est pas hypocrite. Mais l'hypocrite, lui, il va mentir pour préserver et pour protéger sa propre personne ou sa famille, ses proches. Il va mentir. Ça y est. Alors que le croyant, lui, il dit la vérité. Même à ses dépens. Il dit la vérité car il restait digne, même dans la dispute, même dans les conflits. D'ailleurs, donc le croyant, c'est celui dont on est à l'abri de son mal. D'ailleurs, il dit les chers, parce que la personne, il se peut que, des fois, il se peut qu'elle fasse connaissance ou qu'elle connaisse une personne avec qui elle se lie d'amitié et avec qui elle devient amie. Proche. Et son ami va lui dévoiler peut-être ses secrets ou ce qu'elle a dans le cœur. Puis, il se peut qu'il arrive entre ces deux amis, des choses qui arrivent et des choses qui doivent arriver, qui arrivent de manière inexorable. Des disputes, des mésententes, des conflits, des tensions. Et lorsque la personne, elle va rentrer dans la dispute et qu'elle va en plus faire preuve d'injustice, en vérité, elle est en tort lors de cette dispute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à dévoiler les secrets de la personne. Elle va se mettre à dévoiler les choses qu'elle lui avait confiées et propager cela chez tout le monde. Et elle ne va donc tenir aucune promesse qu'elle lui avait faite auparavant. Taïeb, qui est le maintien et le dépôt du secret. Et autre que cela, parmi les choses qui nuisent aux gens, hein, et qui portent préjudice aux gens les uns envers les autres. Taïeb? Non. فنواصل قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عصام ابن خالد قال حدثنا حريز ابن عثمان عن ابن هاني عن أبي أمامة سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده فهذا الإسناد ضعيف. قد روي هذا الحديث بإسناد واه جدا مرفوعا. دونك يجي الحديث نيمورو 160 في الميم شابيتر البخاري يدي عصام ابن خالد نوزا رابورتي اي ادي حريز ابن عثمان نوزا رابورتي سولون ابن هاني سولون ابي امامه il a dit donc je l'ai entendu dire el kanoud. C'est qui el kanoud? C'est celui qui prive les gens de ses biens et de son amitié ou de sa présence, qui mange tout seul et qui frappe son esclave. Donc, ça c'est le canout. Il faut savoir que cette chaîne de transmission, elle est faible. D'accord? Elle est faible. Non. Il y a même une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais celle-là, elle est aussi très faible. رجال الإسناد منهم حريز بن عثمان هو ثقة 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 أبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن هاني اسمه حمزة وهو مجهول لا يعرف. Donc parmi les rapporteurs de ce hadith, on a حريز بن عثمان, qui fait partie des rapporteurs fiables du hadith. On a ابن هاني, dont le prénom est Hamza, Hamza ibn Hani, mais qui est inconnu. Donc on ne connaît pas son état, on ne connaît pas sa situation. Est-ce que c'est quelqu'un dont on peut prendre le hadith ou pas? On ne sait pas. Donc c'est notamment pour ça que le hadith, ici, il est faible. Ou plutôt, la chaîne de transmission, elle est faible. Puis on a Abu Umama, qui est un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ma'an al-kalimat al-kanoud ou al-kafiru bi-ni'matillah. Donc al-kanoud, à la base, al-kanoud, c'est celui qui fait preuve de kufr ni'ma. Celui qui est ingrat envers les bienfaits d'Allah. Comme on a dit, celui qui renie les bienfaits d'Allah, celui qui ne remercie pas Allah pour ses bienfaits, et celui qui ne va pas évoquer les bienfaits d'Allah, Jalla wa'ala, lui c'est un kanoud. Taïeb. Donc ici, la définition qu'a donnée Abu Umama, même si la chaîne de transmission elle est faible, il dit le kanoud, c'est celui qui refuse de donner. C'est celui qui refuse de lier un lien avec les autres. Ça c'est le kanoud. Également celui qui mange tout seul ou qui voyage tout seul. Et là, selon le tafsir qu'on va donner à Yanzilu Wahda, celui qui voyage tout seul ou celui qui mange tout seul. C'est-à-dire celui qui va s'isoler des gens. Pourquoi il s'isole des gens? Eh bien, pour ne pas qu'il s'associe avec lui, hein, dans la nourriture ou autre. Il ne veut pas partager. C'est pour ça qu'il ne se lie pas avec les gens. Quand il mange tout seul. Quand il voyage tout seul pour ne pas partager sa nourriture. Taïeb? Non. Donc beaucoup de gens, فقال هنا, كثير من الناس ينزل وحده ولا يخالط الناس خشية أن يطعم طعاما أو أن يفيد منه فائدة. يضرب عبد هذا هو الشاهد مع أن الحديث كما مر حديث ضعيف. Puis il dit donc beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils voyagent tout seuls, ils mangent tout seuls, pour pas encore une fois que les gens se mélangent à eux, et pour pas que les gens mangent leur nourriture, pour pas que les gens profitent de ce qu'il a. D'ailleurs, ça c'est El-Kanoud. Et à la fin, il dit El-Kanoud, c'est celui qui frappe son esclave. Donc, ça, c'est le passage en vérité du hadith qui est en lien direct avec le chapitre qu'on est en train d'étudier, qui est les mauvais traitements vis-à-vis des esclaves. Mais, comme on a vu, le hadith, encore une fois, il est faible. Non. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فلقاها في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. هذا الحديث أخرج أيضا عبد الرزاق في المصنف وهو ضعيف الإسناد. الحديث numéro 161 يجي الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حجاج بن منهال nous a rapporté et a dit حماد بن سلمة nous a rapporté selon علي بن زيد selon سعيد بن المسيب رحمه الله ainsi que حماد a rapporté selon حبيب selon حميد selon الحسن qu'un homme a ordonné à un esclave qui lui appartenait d'aller chercher de l'eau donc à l'aide du chameau qu'il avait. Et l'esclave, il s'est endormi. L'esclave s'est endormi. Et lorsque cette personne, son maître, l'a vu en train de dormir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une torche de feu et l'a lancée sur son visage, sur le visage de l'esclave. Et comme il était en train de dormir, il était choqué, il est tombé dans le puits. Il est tombé dans un puits. Et lorsque il s'est retrouvé au matin, l'esclave est parti à la rencontre de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui a vu ce qu'il avait sur le visage. Donc il a vu les marques de la torche de feu sur le visage de l'esclave. Et Omar ibn Khattab, il a libéré l'esclave, il a affranchi cet esclave. Donc le hadith a été rapporté également par Abdelrazak fil Musannaf, mais la chaîne de transmission elle est faible également. Elle est faible comme le hadith précédent. Donc parmi les rapporteurs de ce hadith, on a Al-Hassan quand même, qui est Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Il n'a pas rencontré Omar Al-Hassan al-Basri. Puis on a Ali ibn Zayd, qui fait partie des rapporteurs faibles de hadith. On a Habib, qui est Ibn Muhammad al-Ajmi, qui fait partie lui des rapporteurs fiables. Puis on a Humayd, qui est aussi fiable, mais qui a fait preuve de tadlis. Tadlis, donc, seuls ceux qui ont étudié la science du hadith peuvent comprendre ce terme-là, qui est le terme tadlis. طيب. ثم قال: عندنا إسنادان. الأول حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب ثم حول الإسناد فقال: وحماد عن حبيب عن حميد عن حسن. معنى الكلمات يسنو أن ينضح الماء من البئر للسقي، يذهب إلى البئر من أجل أن يمتاح من البئر ماء للسقي، فترد الغلام في البئر لأنه كان نائما ففزع. Donc là ici dit le cheikh dans cette version là Al-Bukhari a rapporté deux chaînes de transmission différentes. D'ailleurs, quoi qu'il en soit, la chaîne reste faible quand même. Mais parmi les mentions, les termes du hadith, on a le terme yasnu, qui veut dire, comme on a dit, aller chercher de l'eau, d'accord? Aller chercher de l'eau dans le puits pour pouvoir arroser, par exemple, une plantation, etc. Donc, cet esclave était parti au puits dans le but de puiser de l'eau de ce puits pour l'arrosage. Et on a vu donc l'histoire, ce qui s'est passé, il s'est endormi, etc. Donc, tarad al-ghulam, c'est-à-dire l'esclave, le ghulam, il est tombé dans un puits. Pourquoi? Parce qu'il était en train de dormir et donc il a été effrayé par ce que son maître lui avait fait. Donc, on voit ici le rapport avec le chapitre qui est le fait de maltraiter les esclaves. Wallahu al-musta'an. Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on commencera le chapitre suivant, le chapitre numéro 84, inshallah ta'ala, jeudi prochain. Wa l'ilm indallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama taslima wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.